À la seconde près, il est 20h en temps universel, 21h à Paris et à Valence. Merci d'écouter RFI.
Baptiste Coulon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Jets de boue et insultes visant le Premier ministre et le roi. L'image qui restera de cette journée en Espagne où les sinistrés des inondations ont exprimé leur colère face aux autorités dans les rues de Paiporta dévastées, récit dans un instant. L'élection présidentielle américaine dans 2 jours, désormais la question religieuse au cœur du vote, vous l'entendrez. Et on se demandera aussi si le Texas, acquis aux républicains depuis 50 ans, pourrait un jour tomber dans l'escarcelle démocrate. Et puis nous verrons qu'au Royaume-Uni, la question du budget alloué par l'État britannique à la monarchie fait à nouveau polémique. Elle était jusqu'ici assez contenue ou visible à travers des critiques concernant la gestion de la crise. Mais cet après-midi, la colère des sinistrés des inondations de la région de Valence en Espagne s'est exprimée de façon virulente. Et la venue du roi Felipe VI est de la reine Laetitia et du premier ministre socialiste Pedro Sanchez n'a rien arrangé, bien au contraire. Insultes et jets de boue leur ont été adressés alors qu'ils déambulaient auprès des rescapés dans la ville de Paiporta au sud de Valence. Récit de Nicolas Falaise.
Sur les images des médias couvrant la visite, le roi Felipe VI et son escorte se fraient un chemin au milieu des cris de colère de la foule. Un membre des forces de sécurité tient un parapluie, non pas pour protéger le souverain des intempéries, mais des projectiles et de la boue que lancent les habitants en colère. La scène se passe dans les rues de Paiporta, une ville de 25 000 habitants dans la banlieue de Valence. Au milieu des clameurs parfois hostiles, le roi et la reine poursuivent leur progression, constamment interpellés par des habitants. Des images montrent le roi tenter d'entamer un dialogue avec un groupe de jeunes en colère, au milieu des gardes du corps et des agents de la garde civile visiblement fébriles. La reine Laetitia, elle aussi, échange avec des habitants de Paiporta, avec une jeune femme au trait tiré, puis avec une autre habitante qui se met à crier. Il y a encore des morts à Paiporta, lance-t-elle.
Et cette visite des autorités a dû être écourtée. Le Premier ministre Pedro Sanchez dit reconnaître l'angoisse et la souffrance des sinistrés, mais condamne tout type de violence. Ce soir, la communauté de Valence est à nouveau placée en alerte rouge en prévision de fortes pluies. Les habitants appelés à rentrer chez eux par les autorités. Les bureaux de vote sont désormais fermés en Moldavie, 2 semaines après la victoire du oui au référendum sur l'Union européenne. Deuxième tour de l'élection présidentielle aujourd'hui. Second tour qui oppose la présidente sortante pro-européenne Maia Sandu à Alexander Stoyanoglu qui prône un rapprochement avec Moscou. Pas encore de résultat pour le moment. Donald Trump ou Kamala Harris, la course à la Maison-Blanche toujours aussi serrée au regard des sondages. J-2 avant l'élection présidentielle américaine. Les deux candidats à nouveau dans les états clés aujourd'hui. Le Michigan pour Kamala Harris, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie pour Donald Trump. Une élection où la question religieuse est un facteur déterminant du vote et qui pourrait faire la différence le 5 novembre. C'est l'analyse de Jason Shelton, professeur de sociologie à l'université d'Arlington au Texas. Il explique que les Afro-Américains qui ont quitté les églises noires traditionnelles sont surtout des hommes conservateurs, moins enclins à soutenir une femme candidate à l'élection présidentielle.
Kamala Harris, she's going to have to get those African-American males in particular.
Kamala Harris va devoir faire en sorte que les hommes afro-américains qui se sentent en marge de la société se rendent aux urnes. Si ces hommes noirs se sentent ainsi, c'est en partie parce qu'ils ont été oubliés par la société. Même les femmes noires les ont dépassés en termes d'éducation et de revenus. Et ce que fait l'ancien président Trump, c'est qu'il manipule ces hommes. Il plaît à certains d'entre eux parce qu'en regardant Donald Trump, il voit un homme qui a réussi. Trump doit espérer que ces hommes afro-américains soit ne se rendent pas aux urnes, soit qu'ils votent pour lui. Il espère aussi obtenir le plus grand nombre de voix possible de la part des afro-américains aisés, en particulier des protestants d'églises indépendantes. Ce que Kamala Harris doit faire, c'est tendre la main vers le bas et s'assurer de capter ces hommes noirs. Mais soyons clairs, la plupart des hommes afro-américains vont voter pour Kamala Harris. Mais dans une élection aussi serrée, qui se décide à la marge, elle a besoin que tous aillent voter. Et je ne suis pas sûr qu'elle obtienne leur voix cette fois-ci. En fait, je suis presque sûr que ça ne sera pas le cas. La question est de savoir combien de votes de leur part elle arrivera finalement à obtenir.
Et propos recueillis par Véronique Guémard. Et on reste sur la thématique des élections américaines avec cette question. L'État du Texas sera-t-il un jour remporté par les démocrates? Ce serait une surprise puisque cet État du Sud des États-Unis est aux mains des républicains depuis 1976. Mais depuis la crise du Covid-19, il connaît une arrivée massive de Californiens. La Californie plus souvent acquise aux démocrates. Reste que cela ne semble pas suffisant pour que le Texas et ses 40 grands électeurs deviennent bleus. D'ici 2 jours pour cette élection américaine. Sujet signé Théo Quintard.
C'est l'une des craintes du Parti républicain, que le Texas, un État historiquement rouge, devienne la Nouvelle-Californie, un État historiquement bleu. Car le Texas est en effet la destination préférée des migrants californiens. Près de 520 000 personnes inscrites sur les listes électorales en Californie ont déménagé au Texas entre 2004 et 2020, d'après une récente étude des universités de Maryland et d'Austin. Car si l'attrait pour le Texas est surtout financier, beaucoup finissent par déchanter, comme l'explique Christy Woodard, professeure de sciences politiques au San Antonio College.
Certains d'entre eux pensent qu'ils vont économiser beaucoup d'argent en s'installant au Texas. Il ne leur faut pas longtemps avant de comprendre que même s'ils ne paient pas d'impôts sur le revenu ici, ils finissent par payer beaucoup plus d'impôts fonciers.
Pour Christy Woodard, le Texas ne va pas changer de couleur, du moins pas tout de suite.
Ils aiment nous montrer en rouge, mais c'est uniquement à cause du collège électoral où le vainqueur remporte tout l'État. Le Texas est déjà violet. Nous allons bientôt devenir bleu, mais cela est basé sur la croissance de la population latino-américaine ici et le taux de natalité.
Selon des démographes texans, d'ici 2050, jusqu'à 20 millions de personnes auront choisi d'aller s'installer au Texas, une grande partie venant de Californie. Théo Quintard, San Antonio. RFI.
La guerre au Proche-Orient et Benjamin Netanyahou menacent le Hezbollah de riposte ferme en cas d'attaque contre Israël. Le Premier ministre israélien en visite aujourd'hui à la frontière israélo-libanaise. Menaces verbales qui n'ont visiblement pas dissuadé la milice chiite qui dit ce soir avoir tiré des missiles sur une base militaire près d'Haïfa en Israël. Ces menaces et ces bombardements alors que l'Iran de son côté indique qu'un cessez-le-feu entre ses alliés et Israël pourrait influer sur la riposte que Téhéran promet à l'État hébreu. Riposte aux frappes israéliennes qui ont visé plusieurs infrastructures militaires iraniennes le 26 octobre dernier. L'actualité au Soudan avec cette information, 13 personnes tuées par balle aujourd'hui dans une attaque dans l'état d'Al Jazeera. C'est dans le centre du Soudan. Une source médicale à l'agence France Presse pointe du doigt les paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée du pouvoir central depuis maintenant un an et demi.
RFI.
Direction le Royaume-Uni à présent. Le Royaume-Uni où la question du budget alloué à la monarchie par l'État britannique crée régulièrement des remous. Et voilà qu'aujourd'hui, une enquête du Sunday Times indique que le roi Charles III et son fils William ont reçu des millions de livres de revenus des services publics et d'organisations caritatives. Les détails avec notre correspondant Thomas Arms.
Rien que l'an dernier, le roi et le prince ont touché près de 50 millions de livres en location de leurs propriétés en Angleterre et au Pays de Galles. Les duchés de Lancaster et de Cornouailles, du roi et de son fils, possèdent au total 5 400 biens en location. Et une grande partie des loyers sont payés par des organismes caritatifs et des services publics. Dans le détail, le prince William touche 37 millions de la part du ministère de la Justice pour la location d'une prison dans le sud de l'Angleterre. Le roi loue, lui, un entrepôt à Londres, à l'assurance maladie britannique pour garer des ambulances électriques, le coût 11,4 millions de livres. Il faut savoir qu'aucune de ces propriétés royales n'est soumise à des taxes et que le roi paye des impôts sur les revenus sur la base du volontariat. Pour les spécialistes des comptes publics, il serait temps de revenir sur ses privilèges, d'autant qu'outre ses recettes, l'an prochain, la chancellerie britannique va verser 132 millions à répartir entre tous les membres de la famille royale. Thomas Arms, Aberdeen.
Et on reste au Royaume-Uni où des milliers de manifestants, 15 000 d'après les organisateurs, ont protesté dans les rues de Londres cet après-midi. Beaucoup s'étaient habillés en bleu pour cette manifestation contre la pollution de l'eau à l'appel de plusieurs ONG. Les participants réclament davantage d'actions de la part des pouvoirs publics alors que le secteur de l'assainissement de l'eau manque d'argent. Certaines entreprises sont pointées aussi du doigt pour leur déversement d'eau usée dans la nature. Les sports, c'était le marathon de New York ce dimanche, marathon remporté par la Kenyane Sheila Shepkirui. Rui, à l'âge de 33 ans, l'athlète de 33 ans qui crée la surprise pour son premier succès. Marathon bouclé en 2h24. Merci à vous d'écouter RFI 21h10 ici à Paris.